Allora possiamo dare inizio ai lavori di questa mattinata conclusiva. In questa prima sezione abbiamo tre relazioni di Julia Harvey, di Francesco Toto e di Laurent Baud. E cominciamo con la comunicazione di Julia Harvey, che è postdoc all'Anse de Lyon e ha scritto un libro su Spinoza e il divenire etico. Il titolo della sua comunicazione di stamane è Corpo individuel, corpo collectif, della physique alla politique. Prego la parola.
Grazie. Grazie. Scusi, non parlo italiano, parlerò francese.
On avait fait une traduction de son texte, mais j'ai oublié de l'imprimer. Donc,
est-ce que tu peux parler?
Donc, lorsque Francesco a évoqué pour la première fois la thématique de ce colloque, il y a un passage de sa présentation qui m'a tout particulièrement retenu mon attention. Interroger la manière dont le terme du corps nous invite à relire l'œuvre spinoziste dans sa complétude et dans ses articulations internes. Dans cette optique, j'ai souhaité faire jouer différentes échelles, corps individuel, corps collectif, dans différents domaines, physique, politique, en me posant deux questions réciproques l'une de l'autre. D'une part, dans quelle mesure peut-on prendre au sérieux l'idée de concevoir la forme et la stabilité d'une société politique sur le modèle d'un corps vivant, avec tous les enjeux mais également les difficultés que cela pose? Et d'autre part, quels peuvent être en retour les enseignements de la pensée politique de Spinoza sur la manière dont on comprend l'inscription temporelle et l'ordonnancement intérieur des corps vivants afin de donner à la politique une place entière dans le système spinoziste et non de la réduire à une simple application de thèses lui préexistantes? Ce sont les questions que je vais poser avec comme notion sous-jacente celle de dynamique et celle d'historicité des corps. La première chose qu'on peut relever, c'est la très grande intrication des différents domaines ontologiques, physiques, anthropologique, éthique, politique, etc., au sein de la philosophie spinoziste. On peut certes mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre selon les moments. Spinoza le fait lui-même en lien avec l'objet qu'il souhaite particulièrement aborder dans une partie ou dans une autre. Mais il n'en est pas un qui puisse exister ni être conçu radicalement indépendamment des autres. C'est là une première indication quant aux corps humains qui sont doublement complexes. Complexes dans la mesure où ils sont composés de corps eux-mêmes très composés. Complexes également en raison des multiples liaisons, relations et affections dans lesquelles ils sont engagés. Ainsi, par exemple, les lames 4 à 7 de l'abrégé de physique détaillent des variations qui peuvent affecter les corps sans que ça n'induise un changement de forme ou de nature. Agrandissement, rétrécissement, modification des mouvements internes, échange de parties, etc. Or, cela ne concerne pas uniquement leur dimension strictement physique, puisque les variations sur fond de continuité de forme constituent la condition de possibilité d'un devenir éthique, comme en témoigne la préface d'Éthique 4. Je cite, « Quand je dis que quelqu'un passe d'une moindre perfection à une plus grande et le contraire, je n'entends pas qu'il échange son essence ou forme contre une autre. Il n'est donc pas d'éthique qui puisse se concevoir contre, ni même indépendamment des lois physiques de détermination des corps. Le plan que suit l'éthique prend ici tout son sens. » Cette remarque vaut également pour le domaine de la politique, qui ne doit pas plus être pensée à part des autres domaines de la vie humaine, comme si les hommes y suivaient des lois autres, et donc comme si nous pouvions faire fi des dispositions habituelles des hommes pour les gouverner. Spinoza met d'ailleurs en garde le théoricien de la politique dès le tout premier paragraphe du traité politique, lorsqu'il évoque des mesures qui n'auraient pu être appliquées que dans l'âge d'or des poètes, donc qui n'ont aucune effectivité dans la pratique, voire qui peuvent se révéler dangereux pour la stabilité de l'État. Spinoza rappelle ainsi à plusieurs reprises que nous restons hommes, anthropologie, quand nous faisons partie d'un corps politique, comme par exemple dans le paragraphe 4 du chapitre 4. Bien que nous disions que les hommes relèvent du droit du corps politique, non du leur propre, nous n'entendons pas par là qu'ils abandonnent ainsi leur nature humaine pour en revêtir une autre, ni par conséquent que le corps politique ait le droit de faire que les hommes s'envolent, ou bien, ce qui est tout aussi impossible, que les hommes considèrent avec respect ce qui provoque le rire et le dégoût. Ou le dégoût. Cette affirmation prend sens à deux niveaux. Premièrement, cela signifie que la stabilité des corps politiques sera à penser en lien avec la nature des hommes qui le composent. Ne pas susciter leur indignation au point de les faire se révolter, faire naître en eux des affects communs, afin que cette communauté d'intérêts les rende solidaires entre eux, parfois malgré eux. Deuxièmement, cette affirmation revêt quasiment un sens éthique lorsque Spinoza affirme, je cite le paragraphe 25 du chapitre 7, que les hommes pourvus de raison n'abandonnent jamais leurs propres droits au point de cesser d'être hommes, ut homines cisse decinat, et de se laisser traiter comme du bétail. Respecter des principes anthropologiques fondamentaux dans la société est ainsi dans ce cadre à la frontière entre politique et éthique. Cette question d'une convenance entre principes anthropologiques et dispositions politiques, entre la manière dont les hommes sont déterminés à agir et ce que l'on met en œuvre pour les gouverner, nous permet alors de rejoindre explicitement la thématique de l'intervention, les convergences et les divergences entre corps individuels et corps collectifs. En effet, dans le paragraphe 2 du chapitre 7, après avoir relevé une fois encore qu'en posant les fondements de l'État, on doit nécessairement tenir le plus grand compte des passions humaines, Spinoza précise, je cite, qu'il n'est pas de condition plus misérable pour un corps politique, civitatis, que de commencer de dégénérer après avoir reçu d'excellentes institutions. Raison pour laquelle, je cite de nouveau, il vaudrait mieux pour les sujets transférer absolument leurs droits à un seul homme, plutôt que de stipuler des conditions de liberté imprécises et vaines, c'est-à-dire sans effet. C'est ainsi de la stabilité, de l'inscription temporelle, de la structure et des variations de puissance du corps politique qu'il s'agit. Autant de questions qui rapprochent le corps politique des problématiques posées par Spinoza au sujet des corps moins composés mais néanmoins complexes que sont les corps vivants. Ce point semble d'ailleurs confirmer quelques paragraphes plus loin, lorsque Spinoza parle de la forme, forma, et de la structure, fabrica, de l'État, terme qu'il utilise à plusieurs reprises dans l'éthique pour évoquer les fonctions et la nature des corps individuels. Je cite par exemple le paragraphe 26 du chapitre 7, toujours du traité politique. Il me reste à avertir que j'envisage ici un État monarchique établi par une multitude libre. C'est à elle uniquement que ces principes peuvent être de quelque usage. Car une multitude habituée à une autre forme, formam, d'État, ne pourra sans grand risque de bouleversement, renverser les bases traditionnelles de l'État et en changer entièrement la structure fabricale. On pourrait ainsi penser que la possibilité de tirer de la physique des enseignements pour la politique tient au fait que les corps individuels, corps vivants, corps humains, et les corps collectifs, société, nation, peuvent être conçus sur le même modèle et donc selon les mêmes principes. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Si la cohésion d'un corps politique semble requérir qu'il puisse exister et être conçu à la manière d'un corps individuel, ce que dit Spinoza de la corporéité de ce corps collectif ne semble pas toujours convenir avec sa conception physique des corps individuels. Quel serait alors le statut de l'extension de considérations d'ordre physique à la politique? Premièrement, si le fait de vivre en commun semble indispensable aux hommes pour entretenir leur vie et cultiver leur esprit, nous ne pouvons pas dire pour autant qu'ils sont naturellement disposés à vivre ensemble dans une parfaite concorde. Spinoza relève ainsi, dès le troisième paragraphe du traité politique, que les hommes sont ainsi faits qu'il leur est impossible de vivre sans être régis par quelques droits qui leur soient communs. C'est même la raison pour laquelle ils acceptent de se soumettre à une autorité politique, alors que nul ne cède de bon gré la souveraineté à autrui. Je cite le paragraphe 5 du chapitre 7. « La multitude dans son ensemble ne transférerait jamais son droit à un seul homme ou à quelques-uns si elle pouvait elle-même réaliser l'unité en son sein. » Ce n'est donc pas seulement la stabilité, c'est également l'unité, la cohésion interne du corps politique qui semble ne pas aller de soi. En outre, Spinoza va encore plus loin en affirmant dans le paragraphe 6 du chapitre 6, je cite, que le corps politique, civitas toujours dans le latin, est toujours plus menacé par les citoyens que par les ennemis extérieurs. En d'autres termes, il est plus de cause de destruction interne qu'externe quand il est question d'un corps politique. Sa principale instabilité tient à ce que ses parties ne sont pas spontanément en paix ni les unes à l'égard des autres, les hommes sont ainsi disposés qu'ils sont pénibles les uns aux autres, ni chacune à l'égard du gouvernant, nul ne supporte aisément d'être soumis à l'autorité d'autrui. Or, cela contrevient à ce que Spinoza dit des corps physiques dans l'éthique, à savoir, je cite la proposition 4 de la troisième partie, que nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure, nisi a causa externa. Proposition que Spinoza pose comme évidente, en ce que, selon la démonstration, la définition d'une chose quelconque affirme l'essence de cette chose, mais ne la nie pas. On devrait ainsi en conclure qu'un corps politique n'entre pas sous cette catégorie de choses, res, et ne suit pas l'un des principes les plus élémentaires des corps individuels, des corps physiques individuels. Il est deux autres choses sur lesquelles Spinoza insiste quand il est tout particulièrement question du corps animal en général ou du corps humain en particulier. Le fait qu'il peut faire de lui-même bien des choses qu'on attribue couramment à l'esprit, et le fait que l'esprit n'a d'empire absolu ni sur lui-même ni sur les actions de son corps, contrairement à ce qu'écrit Descartes dans Les Passions de l'âme. Pour le premier point, on peut se référer au Scholii d'Éthique 3.2, dans lequel Spinoza écrit que ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé, c'est-à-dire l'expérience n'a appris à personne jusqu'à présent ce que le corps peut faire par les seules lois de la nature, ex solis sigibus naturae, en tant qu'on la considère seulement comme corporelle, quatenus corporea tantum consideratur. Et pour le second point, on peut s'en remettre au jugement de Spinoza dans la préface d'Éthique 3, selon lequel Descartes n'a montré autre chose que la pénétration de son grand esprit, en cherchant à expliquer par quel biais l'esprit pouvait acquérir un empire absolu sur ses actions et sur les affects, prenant ainsi ouvertement ses distances avec ce type d'affirmation. Or, quand il est question cette fois-ci du corps politique, Spinoza évoque l'idée que la multitude soit conduite comme par un seul esprit. Et nous sommes là face à une formulation plus cartésienne que spinoziste. Cette conception cartésienne contre laquelle Spinoza s'érige dans l'éthique, lorsqu'il est question des corps physiques individuels. On lit ainsi, par exemple, dans le paragraphe 21 du chapitre 2 du traité politique, qu'il est impossible que la multitude soit conduite comme par un seul esprit, una multi mente educatur, s'il ne possède pas un droit établi selon la prescription de la raison. Ce passage semble poser comme un idéal que la multitude, conçue comme corps, soit guidée comme par un esprit ne pouvant pourtant en rien guider un corps, et que cela s'établisse selon la prescription de la raison, alors que Spinoza a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les hommes ne sont pas guidés par la raison et qu'il faut établir la politique sur d'autres principes. Dans le même ordre d'idées, affirmer comme le paragraphe 19 du chapitre 6 qu'on doit considérer le roi comme l'esprit de la cité et l'assemblée comme les sens externes de cet esprit ou comme le corps de la cité, à travers lequel l'esprit en comprend la situation et par le canal duquel il exécute ses décisions, n'est pas dans la tonalité d'une conception spinoziste des corps et des esprits. Faut-il dès lors considérer que la conception spinoziste des corps physiques ne peut pas être étendue au corps politique? Ou bien alors, quel sens donner à la conception de la société comme corps politique au sens fort, tout en donnant à la politique une place dans le système, c'est-à-dire sans considérer qu'elle obéit à d'autres lois? Quelle que soit la réponse, il faut qu'elle permette de donner sens à cette expression « corps politique » que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois. En effet, outre la possible traduction de « civitas » par « corps politique », Spinoza affirme dans le paragraphe 1 du chapitre 3 du traité politique qu'il entend par ce terme le « corps de l'État », utilisant cette fois-ci le concept « corpus ». En quel sens alors la société politique constitue-t-elle un corps au sens plein et non seulement par métaphore? Pour répondre à cette question, on peut revenir à la conception des corps individuels dans l'éthique avant de faire le chemin autour de la politique à la physique. À de nombreuses reprises, Spinoza évoque les variations de la puissance d'agir des corps, que cette dernière se trouve accrue ou au contraire diminuée. Ainsi, par exemple, il écrit dans la démonstration d'éthique 4, 38 que ce qui rend un corps apte et nécessairement bon, autrement dit utile, est d'autant plus utile qu'il peut y rendre le corps plus apte et au contraire nuisible si cela rend le corps moins apte. On peut retenir deux éléments dans ce passage. Un corps peut devenir plus apte ou moins apte qu'il ne l'était auparavant. Et cet accroissement ou cette diminution de ses aptitudes sont susceptibles de degrés, ce qui peut donner lieu à des comparaisons entre ce qui est plus ou moins souhaitable pour soi. Le fait qu'un corps politique puisse devenir plus fort ou puisse être affaibli, voire qu'il puisse dégénérer au point d'être détruit, n'entre donc pas en contradiction avec cette conception spinoziste de la physique des corps. On peut alors relire à la lumière de ce passage de l'éthique sur l'accroissement et la diminution de la puissance d'agir des corps, le paragraphe 9 du chapitre 3 du traité politique. Je le cite. « S'il n'appartiennent pas au droit du corps politique les mesures que soulève une indignation générale, fin de citation, ce n'est pas pour des raisons morales ni de légitimité, c'est parce que l'État agirait à l'encontre de son propre intérêt » en donnant à la multitude des raisons de se liguer contre lui. Spinoza justifie ainsi cette affirmation comme suit, je cite de nouveau ce paragraphe, puisque le droit du corps politique se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance du corps politique et son droit diminuent d'autant plus qu'il offre lui-même à plus de gens des raisons de se liguer contre lui. À la suite de ce raisonnement, Spinoza établit d'ailleurs sur ce point une comparaison explicite entre le corps politique et un homme pris individuellement. Je cite de nouveau ce passage. « Assurément, le corps politique a des dangers à redouter, de même que, si coûte tout citoyen, ou que l'homme à l'état naturel, sikh, le corps politique relève d'autant moins de son propre droit que ses raisons de craindre sont plus fortes. Il est donc possible d'interpréter les affirmations politiques de Spinoza à la lumière d'une physique des corps, à condition toutefois de réinscrire cette dernière dans une compréhension dynamique, en lien avec les variations de la puissance d'agir. Nous pouvons de la même façon nous référer aux scolies du lemme 7 de l'abrégé de physique, afin de comprendre le sens que nous pouvons donner à la composition et aux variations au sein d'une même forme du corps politique. Ainsi, évoquant de manière successive des corps de composition croissante, Spinoza en vient en ces termes aux composés de composés qui correspondent par exemple aux corps humains. Si en outre nous en concevons un troisième genre d'individus composé de ces seconds individus, nous trouverons qu'il peut être affecté de bien d'autres manières sans changement de sa forme. Avant d'en venir à la nature tout entière, je cite de nouveau, « Si nous continuons encore ainsi à l'infini, nous concevrons facilement que la nature tout entière est un seul individu, dont les parties, c'est-à-dire tous les corps, varient d'une infinité de manières sans que change l'individu tout entier. Un niveau intermédiaire entre ces deux individus que constituent le corps humain et la nature tout entière pourrait alors être attribué au corps politique. Et c'est à la lumière de cette conception d'une composition croissante qu'on peut lire le paragraphe 13 du chapitre 2 du traité politique, je le cite, « Si deux hommes s'accordent pour unir leurs forces, ils sont ensemble plus puissants et par conséquent ont plus de droits sur la nature que chacun séparément. Plus ils seront nombreux à s'unir, plus ils seront de droits tout ensemble. » Les lois de composition et de variation des corps semblent donc pouvoir s'appliquer aux corps politiques au même titre qu'aux corps individuels, ce qui permet de relire l'histoire de ces corps collectifs sous le prisme de ce qui est à mettre en œuvre pour assurer le maintien dynamique de leur forme au fil et au gré des événements survenant en leur sein. Car, et c'est là un bémol dans la conception des sociétés politiques sur le modèle des corps physiques, la stabilité de ces corps est bien moins assurée que la stabilité des corps humains. En effet, selon les termes du paragraphe 5 du chapitre 1 du traité politique, les hommes étant nécessairement soumis à leurs passions, enclins à la vengeance plus qu'à la miséricorde, s'efforçant autant qu'ils peuvent de s'opprimer les uns les autres, des conflits incessants s'élèvent entre eux, bien plus qu'il n'en peut exister entre les parties de notre corps. C'est alors là qu'entrent en jeu les institutions, installer l'État sur des fondements solides, fundamentalement, est absolument requis pour assurer sa stabilité, imperium stabiliendum, selon les termes du paragraphe 8 du chapitre 6. Si nous voulons donc donner sens à la conception de la société politique comme corps, nous pourrions ainsi considérer que les bases sur lesquelles est institué un État constituent comme l'analogone dans un corps politique du rôle joué par la structure fabrica dans un corps physique. Assurer la possibilité de fonctions et de variations diverses dans le cadre d'une même forme. Il me reste alors une dernière étape à franchir, afin de ne pas considérer la conception spinoziste du corps politique comme une simple application de la conception spinoziste des corps physiques. M'interroger sur ce que la compréhension de leur cohésion et de leur historicité peut nous apprendre en retour au sujet des corps humains. Spinoza écrit dans le paragraphe 4 du chapitre 5 du traité politique qu'un corps politique où la paix dépend de l'inertie des sujets que l'on conduit comme un troupeau uniquement formé à l'esclavage mérite plus justement le nom de solitude que celui de corps politique. Dans ce cas, il y a une absence de cohésion interne, le maintien ensemble d'hommes n'ayant pas de disposition particulière à vivre en bonne entente, se faisant simplement en imposant un semblant d'ordre de l'extérieur. Nous pouvons alors tenter de relire à la lumière de cette affirmation le scoli d'éthique 359, dans lequel Spinoza évoque le fait que les causes extérieures nous agitent en bien des manières et que, comme les eaux de la mer agitées par un vent contraire, nous sommes ballottés. Nous pouvons en effet attribuer ce ballottement au fait que nos comportements sont en grande partie passivement déterminés de l'extérieur, selon l'ordre fortuit avec lequel nous rencontrons les choses. Inversement, nous pourrions considérer qu'un ordonnancement des affects du dedans est donc activement déterminé, pourrait être à même d'assurer une certaine cohésion interne cette fois-ci à notre corps, par l'intermédiaire de nos actions devenues cohérentes entre elles. Cette lecture nous rapproche du Scholi d'éthique 2.29, qui distingue le fait de percevoir les choses à partir de l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire en étant déterminé du dehors, externé, et le fait d'être déterminé du dedans, interné, à savoir de ce qu'on contemple plusieurs choses à la fois. Et le pont établi entre ces affirmations et les considérations d'ordre politique nous invite à considérer ces questions en lien avec la stabilité des corps, avec le maintien de leur forme. Non plus seulement considérer à partir d'une pression imprimée de l'extérieur, mais constituée à partir de l'établissement d'une cohésion interne qui empêche toute désintégration, ou bien toute fausse stabilité, consistant en réalité en une polarisation factuelle, sans convenance singulière avec l'individu concerné. La question du maintien de la forme d'un corps prend alors un sens tout à la fois physique, politique et éthique. C'est ce qui ressort du paragraphe 6 du chapitre 3 du traité politique, selon lequel plus un homme est conduit par la raison, c'est-à-dire plus il est libre, plus il mettra de fidélité à observer ce droit et à se conformer aux instructions du souverain dont il est le sujet. Agir ainsi, c'est-à-dire par compréhension interne et non pas par crainte, va alors conjointement dans le sens du maintien de la forme de son corps, déterminé du dedans, et du maintien de la forme du corps politique, animé d'une réelle concorde. Toutefois, cette compréhension de la nécessité d'une règle commune et d'une conformation à cette règle ne va pas de soi. Non seulement peu d'hommes sont conduits par la raison, mais en outre, selon le paragraphe 2 du chapitre 5 du traité politique, les hommes ne naissent pas aptes à la vie en société, ils le deviennent. Non nascunto sed fiunt. Cette remarque inscrit les sociétés politiques, si on leur donne un véritable statut de corps politique, dans une certaine historicité. La concorde n'est pas naturelle entre hommes, qui pourtant ont besoin de mettre leurs forces en commun. Il faut donc les amener à se conformer à une règle commune, que ce soit en étant guidés par la raison, pour un petit nombre d'entre eux, ou par leurs affects, pour la grande majorité. C'est la leçon que Spinoza tire dans le paragraphe 8 du chapitre 10, je le cite, « On doit conduire les hommes de façon qu'ils aient l'impression, sibi videantur, de vivre selon leurs dispositions et leurs libres décisions. Ils le seront effectivement s'ils se conforment au décret commun en y étant guidés par la raison, pour une minorité. Le gouvernement fera en sorte qu'ils croient l'être s'ils sont guidés par leurs affects, précisément en agissant sur la manière dont ils sont affectés. Il y a ainsi une forme de modelage affectif d'homme et l'inscription du corps politique dans une temporalité à moyen terme, à échelle de la modification des représentations des hommes qui le composent. Ce qui donne alors une certaine cohésion interne à un corps politique, à défaut d'avoir pour membres des citoyens conduits par la raison, c'est le regroupement des hommes le composant autour de passions communes, comme en témoigne le paragraphe 1 du chapitre 6. Si la multitude s'accorde naturellement, c'est-à-dire sans y être obligée par une force extérieure dans ce cadre, et accepte d'être conduite comme par un seul esprit, elle ne le fait pas sous la conduite de la raison, mais par la force de quelques passions communes, espérance, crainte, désir de tirer vengeance d'un dommage subi en commun. La multitude fait ainsi corps autour d'affections communes, ce qui lui donne l'apparence d'être conduite comme par un seul esprit. Ce n'est pas un esprit qui donnerait forme et cohésion au corps. Nous pouvons alors interpréter sur le même modèle le scolide éthique 2.18 qui aborde la manière dont nous sommes déterminés à lier certaines idées entre elles. Un enfant apprendra progressivement à lier le fruit pomme au son pomum, si tant est qu'il apprenne le latin, ce qui est une forme de modelage affectif. Le fait que les soldats en viennent progressivement à lier de façon déterminée les traces d'un cheval dans le sable et l'idée de la guerre se traduit par le fait qu'ils font corps autour d'un ingenium commun, constituant en cela une forme de corps collectif intermédiaire. Et enfin, le fait que l'on puisse modifier ses habitudes affectives selon la manière qu'on a coutume de lier les images entre elles peut amener certains à avoir une consistance et une cohérence interne en tant que corps individuels en devenant activement déterminés selon un ordre singulier. En faisant porter notre attention sur la thématique du corps, transversale s'il en est, nous pouvons ainsi cheminer de la physique à la politique et retour. En prenant aussi appui sur ce qui ne va pas de soi dans ce cheminement d'un domaine à l'autre, nous sommes alors amenés à mettre en lumière des caractéristiques qui valent pour les corps individuels comme pour les corps collectifs, pour les corps vivants comme pour les corps politiques. Leur complexité interne, une forme de stabilité dynamique, une affectivité diverse et leur inscription dans une temporalité différenciée. Je vous remercie.
Bene, molte grazie a Giulia e a Ri per questa bella comunicazione sul parallelismo tra fisica e politica da concepire in un senso non metaforico ma intrinseco, un parallelismo appunto che la Ri argomenta assai bene attraverso una dimensione forte appunto della dinamica e della storicità e attraverso soprattutto la teoria di una politica che non sia mai unificazione esterna, unificazione esterna o razionalistica, ma sia appunto una unificazione basata su una dinamica passionale del corpo. Bene, molte grazie.